musiciens, Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Quelques personnes prient pendant que je prêche pour que ma voix tienne jusqu'au bout. J'aurais peut-être pas dû chanter. Mais bon, on va essayer quand même d'y arriver par la foi. On va y arriver. Amen. Bien. Voilà. Nous avons bientôt un nouveau musicien parmi nous, puisque vous savez que Samuel a acquis par son propre travail une guitare et un ampli. On l'applaudit bien fort. On l'encourage pour qu'il puisse être béni. Et il est venu vers moi hier soir me donnant la dîme de son travail de cet été. Magnifique, que Dieu te bénisse. La Bible dit que celui qui fait ça, il est béni. Hein? Ceux qui ne le font pas, ils sont donc le contraire. Mais bon, je ne vais pas prêcher ça ce matin, mais c'est juste pour t'encourager, pour dire, voilà, la Bible dit que si tu donnes ta dîme et les offrandes, alors tu peux t'attendre à ce que Dieu remplisse tes greniers de mou. Moi, j'aime pas trop le mou, mais alors il sait ça, il remplit mon grenier avec d'autres choses. Mais Dieu te donnera l'abondance aussi. Et surtout, je prie pour qu'il te donne une abondance de talent afin que tu puisses bientôt être sur cette estrade et chanter des cantiques, jouer avec ta guitare. Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 11, 23, 29, s'il vous plaît. C'est un texte qu'on lit tous les dimanches matins dans les églises en général, de Pentecôte en tout cas. Voilà le texte. C'est Paul qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Je
vais vous asseoir.
Nous avons créé quelque chose de nouveau dans notre communauté. C'est que non seulement nous prenons le pain et le vin dans la communauté le soir, le premier dimanche de chaque mois, le soir à table, comme le Seigneur le faisait, mais nous le prenons aussi maintenant dans la chapelle pour bénir tous nos visiteurs, nos frères et sœurs qui se joignent à nous le dimanche matin. Et nous allons donc prendre la Sainte-Cène ce matin ici à la chapelle du Sanctuary. Et je voudrais vous parler du pain et du vin et de tout le mystère qui entoure, n'est-ce pas, ce symbole. Parce que le pain, c'est du pain et le vin, c'est du vin. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a pas de magie. Mais Jésus nous dit que nous devons y discerner le corps du Seigneur. Nous devons y discerner son corps. Dans toutes les religions où il y a des initiés, il y a des symboles. Et Jésus s'est adressé aux siens, à ceux qui l'avaient initié pendant des années, et il a très souvent parlé en parabole. D'abord, ils ne comprenaient pas grand-chose. Un jour, ils ont dit « Ah, enfin, on comprend ce que tu nous dis maintenant. » Et là, il leur présente les symboles, le pain et le vin. Et maintenant, si vous avez mûri, vous, mes frères et sœurs, si vous avez évolué correctement, vous vous rappelez toute cette série de prédications que je vous fais depuis le mois d'août au sujet de nous sommes nés et puis nous avons évolué comme ci, comme ça, et dans la nouvelle naissance, il y a aussi toute une évolution. Eh bien, si vous avez évolué correctement, vous allez regarder ce pain et ce vin comme des symboles, mais le symbole n'est pas là. Le pain et le vin sont le symbole du symbole. C'est ça que Dieu veut que nous comprenions. Le pain et le vin cachent quelque chose de sacré. Le pain et le vin ne sont pas sacrés. Ils sont le symbole de quelque chose qui est sacré. Ils sont le signe figuratif, l'emblème du symbole apocryphe. Apocryphe signifiant tenu caché. Jésus tient caché quelque chose. Et même les grands religieux, même les gens religieux n'y voient rien du tout. Le pain représente le corps de Jésus, le vrai corps de Jésus, ce corps qu'il avait quand il marchait sur cette terre. Et le vin représente le sang de Jésus. Le vrai sang de Jésus, celui qui coulait dans ses veines alors qu'il était en train de marcher sur cette terre. Voilà ce que représente le pain et le vin, le vrai corps de Jésus. Ce vrai corps-là, il y a 2000 ans, a été crucifié. Et le pain que nous rompons nous rappelle cela. Le vrai sang de Jésus a été versé à la croix réellement, une fois pour toutes, pour le pardon de nos péchés. Et ce sacrifice a été fait une fois et il n'a pas besoin d'être refait. Dans la religion catholique, la messe, c'est refaire le sacrifice. Ils refont le sacrifice chaque fois qu'ils donnent la messe. C'est une hérésie. C'est un enseignement de faux prophètes. Il faut le dire, mes frères et sœurs. La vérité n'est pas là. Quand nous prenons le pain et le vin, nous faisons ce geste en mémoire de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de Jésus, homme, qui a offert son corps et son sang pour être notre substitut, pour mourir à notre place. Nous méritions de mourir à cause de nos péchés. Devant Dieu, nous étions coupables et la peine, c'était la peine de mort. Mais Jésus s'est offert et il est mort à notre place. Son corps a été meurtri, brisé là et son sang a coulé à la place du nôtre. Et quand nous prenons ce pain et ce vin, c'est en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Il mourait à notre place, à cause de nos péchés, pour que nous puissions être purifiés, pour que la colère de Dieu, Dieu a passé sa colère sur Jésus, afin que de la détourner de nous, Jésus a porté tous nos péchés. Et maintenant, nous pouvons être graciés, pardonnés, purifiés. Sur l'autel, devant Dieu, Jésus a offert son corps et son sang. Personne ne peut prétendre que ce sacrifice doit être refait. C'est une abomination, une réelle abomination. Le pain que nous mangeons représente son corps, le vin représente son sang, et ils sont le symbole, non de son corps humain seulement, mais aussi de son nouveau corps qui est l'Église. Si on n'a pas compris ça, alors on peut croire que c'est le sacrifice qui est refait, etc., etc. Vous comprenez? Le pain et le vin sont son corps humain d'autrefois et ils sont son corps humain d'aujourd'hui. Jésus a aujourd'hui encore un corps humain. Ce que je vous ai enseigné tous ces derniers temps, ça tendait vers cette grande réalité. Dieu a commencé une œuvre nouvelle quand il a répandu de son esprit sur les siens. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a commencé quelque chose de nouveau. Avant, il s'était formé un corps en vue du sacrifice. Et là, à partir du moment où il a répandu de son esprit sur les siens, eh bien, il a commencé une œuvre nouvelle. Il a commencé à se former un corps pour l'éternité. Un nouveau corps dans lequel il vit. Son esprit en vous, c'est l'esprit de Dieu en vous. Ce n'est pas un troisième esprit. C'est le même esprit. En prenant ce pain et ce vin, nous discernons son nouveau corps. Quand vous prenez le pain et le vin, il ne s'agit pas de fermer les yeux et de discerner le corps de Jésus en pensant, voilà, il était blond, avec des yeux bleus, et puis voilà. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous affirmons que Jésus-Christ est mort, nous proclamons qu'il est mort, nous proclamons qu'il est ressuscité, nous proclamons qu'il est monté vers son Père, que son corps a été glorifié et qu'il reviendra. Voilà tout ce que nous faisons quand nous prenons la Sainte Cène. Et que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui lui sont soumis, qui sont membres de son nouveau corps sur cette terre, sont nos frères, sont nos sœurs. On ne divinise pas les symboles, ni le pain, ni le vin, ni l'Église. C'est Dieu qui est divin. Sa parole est divine. L'Église ne l'est pas encore. C'est pourquoi elle est faillible. Aucun homme est infaillible. Personne. Aucun pape, aucun prêtre. Personne. Personne. L'Église est faillible parce qu'elle est faite de gens faillibles. elle est composée de gens faillibles. Mais ce sont des gens faillibles qui ont été purifiés, pardonnés, et aux yeux de Jésus, c'est la chose la plus précieuse au monde, c'est l'Église qui est la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu. Et si l'Église est la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu, nous devons aussi regarder cela comme le plus précieux. Les mortels, eux, ils s'attachent aux symboles. Nous, nous nous attachons aux choses d'en haut. Les symboles nous les rappellent. Les mortels, les hommes dans ce monde, sont à la recherche du Saint Graal. Alors, il y a le Saint Graal religieux, hein, on sait bien, vous connaissez les histoires, mais on est tous à la recherche d'une perfection, de quelque chose. Il y en a même qui sont à la recherche d'une fontaine de jouvence, j'ai lu ça, des choses. C'est incroyable, il y a des gens qui parcourent encore aujourd'hui le monde à la recherche de cette source. Oui, 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 oui. Ou de la pierre philosophale, ou de tout ce que vous voulez. Le Saint Graal. Et le Saint Graal, mes frères et sœurs, nous savons où il se trouve, nous autres. Et ça, c'est les gens de ce monde ne le voient pas. Le Saint Graal, il est là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Quand on est assemblé au nom de Jésus, c'est ça le Saint Graal. C'est ça la perfection, c'est ça ce qu'il y a de plus parfait au monde. C'est quand deux ou trois êtres sont assemblés en son nom, sont d'accord et sont là en son nom. C'est ce qu'il y a de plus saint au monde. Jésus est présent là, il est présent tout le temps. Mais il est présent là d'une façon tout à fait particulière. Particulière. Et il dit, à ce moment-là, dans ce moment précis, alors quoi que ce soit que vous demandiez, je le fais. Tellement c'est saint. Le moindre de nos souhaits, c'est un ordre, on pourrait dire. Mes frères et sœurs, c'est ça le secret de la vie miracle. C'est d'entrer dans cette unité. L'unité de Dieu Esprit et de son corps humain terrestre. Nous ne pouvons pas prétendre entrer en communion d'esprit avec Dieu si nous ne pouvons pas être en communion terrestre avec son corps. Pas possible. Mensonge. Religion. Rien n'est plus saint sur la terre que le corps de Christ. Il est né, non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que chacun de ses membres est né, non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Vous êtes né de la volonté de Dieu et vous avez été baptisé, plongé, immergé dans ce corps. Vous vous rappelez mes anciennes prédications d'il y a quelques semaines. Nous sommes le nouveau pain descendu du ciel. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous brillons dans les ténèbres. Voilà ce que la Bible dit de nous. Voilà ce que nous sommes. Il faut commencer à réaliser, rendre réelle cette connaissance. Ceux qui ne sont pas appelés ne peuvent pas le voir. Et maintenant, je vais vous révéler un mystère. Ceux qui ne sont pas appelés, ils ne peuvent pas le voir parce qu'ils confondent l'amour et la haine. Pour eux, ils croient que l'amour, c'est une émotion. Et que la haine, c'est aussi une émotion. C'est faux. L'amour, c'est une personne et la haine, c'est une personne. Dieu est amour. Et quand il dit... Je répondrai de mon esprit, le Saint-Esprit survenant sur nous, sur vous, et vous recevrez une puissance, c'est la puissance de l'amour, ce n'est pas la puissance pour ouvrir les yeux des aveugles. Bien sûr que cette puissance d'amour ouvre les yeux des aveugles, mais ce n'est pas le but réel. Le but que Dieu veut atteindre, c'est que la puissance de l'amour se manifeste à travers de son corps terrestre. Sa force, la force de Dieu, c'est l'amour, il n'y a pas de force plus grande. Et cet amour est notre force intérieure, qui est dirigé d'abord vers nous-mêmes. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, à la même mesure. Ensuite, cet amour, ça devient une extension de moi. Mais il faut d'abord que je m'aime moi-même. Pas d'un amour malsain, mais d'un amour divin. Alors, à partir de ce moment-là, cet amour devient une extension de moi. L'amour et moi émane de Dieu et l'amour émane de son nouveau corps, puisque c'est là que Dieu vit, dans son corps. L'amour émane du disciple qui est membre du corps de Christ. Le disciple, il peut dire alors, toutes les formes d'amour émanent de moi. Ça paraît terriblement orgueilleux, ça paraît terriblement égoïste et celui qui est dans les ténèbres ne le comprend pas, il ne peut même pas le comprendre, il ne le croit pas. Il ne peut pas le comprendre parce que lui, il mélange le moi et l'ego. C'est aussi ce que je vous ai enseigné depuis toutes ces semaines. Le vrai moi, ce n'est pas mon ego. Le vrai moi, c'est l'esprit que je suis. Je suis un esprit mis dans un corps. Et les deux, ça a fabriqué moi. Mais ce moi ne doit pas être détruit, ce moi doit être sauvé. Il est le sauveur de notre âme, pas de notre esprit. Et notre corps n'a pas encore été racheté, Romains chapitre 8, il sera racheté plus tard. Mais pour le moment, c'est mon esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit qui doit influencer le moi, mon âme. Mais mon vrai moi, ce n'est pas une création, mon vrai moi c'est un esprit, je suis un esprit. Et l'amour émane de l'esprit, ça ne peut pas sortir de l'âme l'amour, c'est un faux amour. C'est une imitation, c'est du Canada Dry si vous voulez. On dirait du champagne, mais ça n'en est pas. Cela, le Saint-Esprit en rend témoignage à notre esprit. Et si ce témoignage existe en vous, alors il est également accompagné du témoignage que les membres du corps de Christ sont un, c'est-à-dire moi avec eux, eux avec moi, mon esprit c'est leur esprit. Il n'y a qu'un esprit, il n'y a pas 150 milliards d'esprits. C'est l'esprit de Dieu. Une part de l'esprit de Dieu qui vit en vous, c'est vous. C'est le même esprit. Il n'y a qu'un, c'est Dieu. Et il se manifeste de nos jours par son corps terrestre qui est l'Église. Vous croyez qu'on est séparés, mes frères et sœurs, on n'est pas séparés. C'est juste une affaire d'illusion, c'est notre corps. Mais on n'est pas séparés. Votre esprit, c'est le même que le mien. C'est celui de Dieu. Et il se manifeste de nos jours par ce corps terrestre qui est l'Église. Et voilà pourquoi il est si important de discerner le corps de Christ. Si tu ne le vois pas, tu manges et tu bois un jugement contre toi-même, nous dit les Écritures. Prendre le pain et le vin, c'est un acte de mémoire. Tu te souviens, non pas seulement que Jésus était crucifié, mais pourquoi il était crucifié. Tu es lavé, mais pas seulement toi. Tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ et qui aiment Jésus-Christ et qui croient en Jésus-Christ et qui ont été baptisés correctement et qui sont membres du corps de Christ et qui sont des membres qui font vivre ce corps, qui le font grandir, évoluer, bouger, eh bien, tous ceux-là sont aimés autant que tu l'es. Ils sont aimés de Dieu autant que tu l'es. Ils ont des faiblesses les mêmes que les tiennes, mais ils sont au bénéfice de la même miséricorde de Dieu. Alors tu vas dire, oui, mais elle est insupportable. C'est très possible. Mais tu dois être discerné, membre du corps de Christ. Tu dois discerner le corps de Christ. Parce que si tu ne le fais pas, c'est à toi que tu fais du mal. C'est à toi que tu fais du mal. Tu prends un jugement contre toi-même. Si tu ne le vois pas, si tu ne le discernes pas, si tu ne veux pas t'en souvenir, si tu ne le crois pas, alors ne communie pas. C'est plus grave de penser que, de juger un frère, une sœur, et que de pécher soi-même. Le plus grand péché du monde, c'est de croire que Jésus n'est pas mort pour moi. Et bien le deuxième, c'est de croire qu'il n'est pas mort pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est mort pour son frère, qui est casse-pied, c'est vrai, c'est un fait, voilà, bon. Mais si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort pour lui, alors ne communie pas, s'il te plaît, parce qu'il en sera fait selon ta croyance. Et si tu communies, eh bien, tu communieras avec un démon. Il ne faut pas. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Si tu communies alors que tu juges ton frère et ta sœur, alors que tu oublies que le corps de Jésus homme et que le sang de Jésus homme ont été donnés autant pour toi que pour eux, si tu communies avec eux sans croire tout ce que Jésus a fait pour eux aussi bien que pour toi, tu communies avec donc, tu le crois, des esprits contraires. Et ça, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de communier avec des esprits contraires. Alors, que chacun s'éprouve soi-même, ça veut dire ne juge pas les autres, éprouve-toi toi-même. Et la plus grosse question, c'est pas Bon, est-ce que j'ai péché? Voyons, j'ai fouillé. Qu'est-ce que je faisais hier à 2h15, puis à 2h20? Attends, voir, est-ce que j'ai pas dit un mensonge? Non, attends, c'est pas vrai. Et puis, comment, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi mon intention? Faire une espèce d'introspection? Non, non, c'est pas ça. Éprouve-toi toi-même. C'est écouter la voix de l'Esprit qui te convainc de péché, te mettre en ordre avec Dieu, et ainsi tu peux prendre la Sainte Cène. Mais c'est aussi écouter la voix de l'Esprit qui te dit « Je suis mort pour ceux qui t'ont fait de la peine, pour ceux dans le corps de Christ qui t'ont éprouvé, pour ceux qui dans le corps de Christ t'ont torturé, t'ont fait du mal, t'ont embêté, t'ont volé ou que sais-je. Eh bien, je suis aussi mort pour eux. » C'est ça discerner le corps de Christ. C'est ça rentrer en soi-même. C'est ça s'éprouver soi-même. C'est éprouver, je m'éprouve. Est-ce que vraiment je crois ça? Est-ce que vraiment je crois que Jésus est mort pour moi, mais qu'il est aussi mort pour l'autre? Après s'être donc éprouvé personnellement sur ces deux sujets, après avoir vu tes imperfections et le pardon que Jésus t'accorde, tu crois à son pardon et à sa miséricorde pour toi, et alors tu crois aussi à sa miséricorde pour les autres. Et ainsi tu discernes le corps de Christ. C'est ça, discerner le corps de Christ. Et tu peux ainsi communier. Mon frère, ma sœur, si tu regardes ton frère, si tu regardes Michel Jonton, à travers le microscope de la critique, eh bien tu vas te dire, qu'est-ce qu'il est grossier. Si tu observes Michel Jonton au télescope du mépris, tu vas me trouver tout petit, minable. Mais si tu regardes Michel Jonton au travers du miroir de la vérité, tu vas voir qu'il te ressemble terriblement, Michel Jonton. Non, on est tous des pécheurs. Mais on est tous des pécheurs sauvés par grâce parce que nous avons tourné notre regard, notre cœur vers Jésus-Christ, celui qui est miséricordieux, tous. Et nous avons tous du chemin à faire encore pour arriver à la perfection. Il y en a qui ont fait déjà 10 km, il y en a qui ont fait 300 mètres. Et alors? Et alors? Déjà, ils nous voient saints. Alors, regardons les autres comme Dieu nous regarde. C'est ça, discerner le corps de Christ. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ça signifie quelque chose de grand. Ça signifie que ce que nous avons à faire là, ce geste que nous avons à faire de manger et de boire, nous devons le faire souvent parce qu'on apprend progressivement à renoncer, à évincer l'ego. C'est progressivement. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à évincer votre ego, vous? Non. Un petit peu. Puis après, il revient. Non? Il revient pas, vous? Oui, il revient au galop. Alors, on l'évince, on le met dehors, puis il suffit qu'on ait un chagrin, machin, tout ça, puis il revient. Vous avez pas remarqué ça? Ça s'en va, mais ça revient. C'est terrible. Et alors, Jésus veut que nous répétions ce geste pour que nous nous souvenions, que nous revenions là-dessus. Oui, Jésus m'a pardonné, mais il a aussi pardonné mes frères et sœurs. Amen. Amen. Et on apprend progressivement à évincer notre ego qui juge, qui méprise, qui critique. On est tous comme ça. Il y a de nombreuses barrières que nous avons à franchir progressivement les unes après les autres. Parce que ces barrières nous empêchent d'éprouver l'amour que Jésus éprouvait quand il était dans son corps. Ces barrières de l'ego, c'est la peur, c'est l'habitude. Vous savez qu'il y en a qui sont addicts. Ah, ça, c'est un mot terrible. Hein? Accrochés, drogués à la critique. Hein? Ou aux habitudes. C'est une habitude, ou alors à l'égoïsme, la colère et toutes ces choses-là. Il faut se désintoxiquer de ces trucs, c'est progressif. Dieu n'est pas méchant, il n'est pas là à vous en vouloir et à être plein de rancune. Et non, il vous aide, et c'est jour après jour, et il voit vos progrès, et nous les voyons aussi. Est-ce que vous voyez un peu les miens quand même, un petit peu, un petit peu, un petit peu? Ah, mais c'est gentil. Dieu regarde. Et nous devons regarder comme lui. Il a répandu son esprit sur nous et notre esprit en communion avec son esprit est plus apte à nous familiariser avec la force de l'amour. C'est son esprit qui est apte à nous familiariser avec l'amour. Ce n'est pas notre âme. Notre âme, elle est sentimentale. L'esprit, le Saint-Esprit, il nous rééduque. Il s'occupe de former, de façonner correctement nos émotions, nos croyances. Si on confie ça à notre âme, on est fichu d'avance, mes pauvres enfants, parce qu'on est sentimentaux. Les points de vue du Saint-Esprit ne sont pas nos points de vue. Le point de vue du Saint-Esprit, c'est que l'amour est la force omniprésente à laquelle on peut absolument confier le soin de ramener de l'ordre et de la paix dans notre vie. C'est le seul qui peut. Notre esprit en communion avec son esprit. Pas par des exercices de notre âme, c'est le Saint-Esprit qui parle à notre esprit et qui forme notre âme. Ce n'est pas par des raisonnements. Le hasard ne peut pas créer l'ordre. On ne peut pas laisser ça au hasard. Il faut avoir des exercices spirituels. Pratiquer des exercices spirituels qui ont l'air répétitifs, mais c'est voulu de Dieu. Parce que nos erreurs aussi, elles sont répétitives, non ? Elles ne sont pas répétitives, bien sûr. Le mot « ordre » sous-entend le mot « création ». Il ne peut pas y avoir d'ordre s'il n'y a pas une intelligence qui a mis cet ordre, qui a créé cela. Et nous sommes les créateurs d'ordre, ou de désordre. Mais nous sommes appelés des créateurs d'ordre comme Jésus l'était quand il vivait dans son corps terrestre. L'ordre, c'est quoi ? C'est de séparer les ténèbres avec la lumière. Mais c'est de séparer nos propres ténèbres de notre propre lumière. C'est pas de séparer notre lumière des ténèbres des autres. Non, c'est pas ça. Il nous appartient à nous de rassembler à présent toutes ces qualités qui sont l'ordre, l'équilibre, l'évolution, l'intelligence, parce que quand ces quatre-là sont ensemble, c'est ça qui forme l'amour. L'ordre, l'équilibre, l'évolution et l'intelligence. S'il en manque un, ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour, il n'est pas déséquilibré. C'est des gens déséquilibrés, ils croient aimer, puis ils font des tas de trucs. Mais ce n'est pas de l'amour. On le voit finalement à la fin. L'amour, il ne fait que d'évoluer. Avec ces trois choses, l'ordre, l'équilibre, l'évolution et l'intelligence, il connaît la place de chaque chose, il connaît la place de chaque être. Le vrai amour, il est intelligent. Quand on agit sur un coup de cœur, comme on dit, c'est rarement intelligent. Avez-vous remarqué ? C'est rarement intelligent. Quand l'ego d'une personne est tenu à sa bonne place, c'est-à-dire dans l'humilité, en dessous, soumis, mis dessous, alors l'esprit de cette personne commence à comprendre qu'est-ce que c'est la force de l'amour. Pas avant. L'amour, ce n'est pas sentimental. Dieu n'est pas sentimental. Dieu est amour. Et Dieu n'est pas sentimental. L'amour n'est pas sentimental. On va dire, c'est quoi cette histoire ? Ben écoutez bien, un jour, il finira par détruire toutes sortes de choses, toutes sortes d'êtres, sans aucun état d'âme. Par amour, il le fera. Il détruira ça par amour. Oh combien ces conceptions sont différentes des conceptions de notre âme sentimentale, non ? Et regardez comment c'est compliqué quand on veut réfléchir avec notre âme. Et regardez l'histoire du corps de Christ depuis 2000 ans. Toutes les circonstances les plus hostiles n'ont pas réussi à détruire ce corps-là. Pourquoi ? Parce que l'esprit est indestructible. Pourquoi ? Parce que le vrai amour est indestructible. Pourquoi ? Parce que Dieu est indestructible. Et son corps, Dieu le voit comme son égal. Nous, comment est-ce qu'on le discerne ? Son corps. Et tous ceux qui s'attachent et qui se sont attachés, qui s'attachent encore à persécuter les Juifs ou l'Église de Jésus-Christ, ne discernent pas le vrai corps de Christ. Et ceux-là, et Dieu n'aura même pas besoin de les châtier, de les rejeter. Ils se rejettent eux-mêmes. Ils se mettent eux-mêmes hors jeu. Ils se jugent eux-mêmes et se condamnent eux-mêmes. C'est ce que nous avons lu là. Ne soyez pas du lot de ceux qui se rejettent eux-mêmes. En rejetant ton frère pour une peccadie, tu te rejettes toi-même pour une peccadie. Parce qu'aux yeux de l'éternité, le petit truc que ton frère ou ta sœur t'a fait, tu vas me dire, c'est pas un petit truc. Oui, mais moi je te dis, c'est un petit truc, hein, à côté de l'éternité. Appliquez, mes frères et sœurs, ces révélations dans votre propre vie. Votre âme, Votre ego est absolument incapable d'anticiper ou de planifier le développement de votre vie. Il en est incapable. Impossible. Il est incapable de protéger votre vie, votre âme, votre ego. Incapable de protéger votre vie contre les deux dangers menaçants. Incapable. Mais Dieu vit en vous. Dieu vit en vous. Et la compréhension de cette réalité, de cette vérité, c'est le commencement de la foi, de la confiance. Quand on commence à croire ça, alors on commence à avoir la vraie foi. Pas la foi basée sur un petit A, un petit B, un petit C. La foi que Dieu vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors rien ne peut me nuire, parce que rien ne peut nuire à Christ. Et moi, si je meurs, la mort m'est un gain. Alors, ne laissez pas le jugement, ni la peur, ni le doute saper votre foi. Dieu n'est pas indifférent et son esprit n'est pas chaotique. Et s'il arrive des choses qui vous semblent être du chaos dans votre vie, mais restez tranquille. Dieu vous invite à entrer en prenant correctement ce pain et ce vin, à entrer, à pénétrer dans son monde. Son monde où la peur, où la violence, où la destruction ne sont pas votre lot. Quand je dis votre lot, le lot de votre esprit. Votre corps est destructible, pas votre esprit. La peur, la destruction, le jugement, c'est que des émanations de vos fausses croyances, des croyances de votre âme. Votre esprit, lui, ne craint rien. Il est issu de Dieu, il est Dieu. Il est une part de Dieu en vous. Entrez dans le monde de la lumière va progressivement développer quelque chose dans votre connaissance, c'est-à-dire dans votre âme. Ah, je suis enfant de Dieu, c'est ça, le Saint-Esprit témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Mais si vous n'entrez pas dans la lumière, si vous n'entrez pas dans la lumière selon les Écritures, si vous y entrez selon vos sentiments, selon vos impressions, « Oh, Dieu ne peut pas être mauvais, Dieu doit être bon, s'il est bon, alors je pense que... » Non, tout ça, c'est de la foutaise. Regardez comment Dieu est, il n'est pas sentimental. Entrez dans le monde de la vérité, de la lumière, c'est ça la lumière, c'est la vérité. Et vous allez avoir cette révélation progressivement qui va devenir une force. « Je suis un enfant privilégié de Dieu, je suis en totale sécurité, je suis totalement soutenu, je suis totalement aimé, rien ne peut me nuire. » Ce n'est pas seulement un verset, rien ne peut me nuire, mais une raison pour laquelle rien ne peut me nuire. C'est parce que je me suis mis du bon côté. Je discerne où est le corps de Christ. Vous avez été choisis, mes frères et sœurs, avant la création du monde, pour venir incarner cela sur la terre, pour venir incarner l'Esprit de Christ sur la terre, dans un corps, dans son nouveau corps, l'Église. Alors, il y a des gens qui voient l'ennemi partout. Mais s'il y a un ennemi sur la terre, c'est nous. Nous sommes l'ennemi des ténèbres. Les ténèbres n'existent pas par eux-mêmes. Nous sommes l'ennemi des ténèbres. Simplement parce que Dieu veut se débarrasser des ténèbres. Et simplement parce que vous êtes lumière, alors les ténèbres s'en vont. Quand vous allumez la lumière, les ténèbres ne sont plus là. Il n'y a pas à lutter, on allume la lumière. Être là, c'est déjà chasser les ténèbres. Si nous sommes vraiment lumière. Et ceux qui ne vous reconnaissent pas montrent qui ils sont, ils s'identifient, puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis un jour, ils peuvent ne pas vous reconnaître, comme l'apôtre Paul ne reconnaissait pas les chrétiens, les persécutait, puis quelque temps après, il est lui-même éclairé et il reconnaît. Alors ne jugez pas, quelqu'un ne vous reconnaît pas aujourd'hui, mais ça peut venir demain. Aimez, aimez, aimez. Le premier corps de Christ, il devait être détruit, ressuscité et glorifié. Alors, Dieu a envoyé Judas pour ce faire. Il fallait un Judas pour que ce corps soit détruit, ressuscité et glorifié. Le nouveau corps de Christ ne peut pas être détruit. Mais vous, les membres du corps de Christ, vous pouvez souffrir. Et ça, ça fait aussi partie du corps, du plan de Dieu. Alors, il suscite des gens pour cela. Il suscite des démons pour cela. Il suscite des maladies pour ça, toutes sortes de choses mauvaises pour arriver à cela. Nous n'avons pas à craindre ce que Dieu a suscité. Il sait très très bien ce qu'il fait. Il y a un but pour tout. Certaines choses sont envoyées contre nous pour que nous exercions par exemple notre pouvoir de miracle et que ainsi nous glorifions Dieu. Alors on peut dire avec Jésus, comme il le disait, ce mal n'est pas venu pour la mort de Lazare, mais pour la gloire de Dieu. Ah, voilà, parce que contre ce mal-là, j'exerce le pouvoir de faire des miracles. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'autres fois, des choses, des gens ou des démons sont suscités par Dieu contre vous afin de vous tenir dans l'humilité. Alors, à ce moment-là, vous pouvez dire comme l'apôtre Paul, « Seigneur, tu as raison, ta grâce me suffit. » Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et là, quand vous faites ça, dans l'épreuve et dans la difficulté, vous glorifiez aussi Jésus-Christ, autant que si vous faites un miracle en son nom. Et puis, il y a des démons, il y a des gens qui sont suscités et envoyés par Dieu contre vous pour tuer réellement votre corps humain. Par des persécutions, par des maladies, par des accidents, par toutes sortes de choses. Et là, alors nous pouvons dire comme Étienne, « Moi, je vois Jésus assis à la droite du Père et pardonne ceux qui me font ça. » Et là, on glorifie aussi Dieu. Non ? Là aussi, on glorifie Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, tout ce qui arrive, Dieu le sait. Et par notre comportement, nous glorifions Dieu ou nous ne le glorifions pas. Quand nous reconnaissons, quand nous discernons le corps de Christ, quand nous prenons le pain et le vin et que nous, parce que nous nous croyons pardonnés, et quand nous le prenons parce que nous croyons que les autres, ceux qui communient là avec nous, sont aussi pardonnés que nous le sommes, alors nous glorifions Dieu. Sinon, nous ne le glorifions pas et nous attirons contre nous un jugement. Nous glorifions Dieu par notre courage, par notre foi, par notre humilité, par notre sens de l'humour, par notre esprit de renoncement. Je renonce. Quoi ? À mon frigidaire ? Non. Bien sûr, il faut tout donner, bien sûr. Mais je renonce surtout à vouloir avoir raison. Oui, mais là, c'est quand même lui qui a commencé. Oui, mais là, c'est quand même elle qui a fait ci, qui a fait ça et tout. J'ai raison dans cette histoire quand même. Mais arrête, renonce. Bon, ben voilà. Soyons sa parole. Soyons son corps vivant dans notre temps. Dans notre temps. Voilà ce que c'est le Saint Graal. Je sais que s'il y a des pasteurs ou des chrétiens qui m'écoutent sur Internet ou à la radio, ils vont sauter en l'air. Mais écoutez bien ce que je veux dire par là. Je ne crois pas qu'il y a le Saint Graal. C'est une invention d'un monsieur qui s'appelait Chrétien, qui vivait à Troyes en 1180. Je suis très au courant. C'est un roman, voilà, avec Merlin, avec tout ça. Je suis très, très au courant. Je ne suis pas à la recherche d'un gobelet. Non, non. Je vous parle du côté spirituel. Je vous parle de la spiritualité, de la chose, de la... Voilà, je crois que vous m'avez compris, vous n'êtes quand même pas... L'autre jour, un pasteur est repassé derrière moi pour expliquer ce que j'avais dit parce qu'il pensait que ces chrétiens étaient tellement bêtes qu'il était obligé de le redire derrière moi. T'étais là, ça fait drôle. Je crois que vous me comprenez et que vous ne me faites pas dire les choses que je dis par mes frères et sœurs. Est-ce que vous imaginez ce que vous êtes? Est-ce que vous arrivez à croire vraiment ce que vous êtes? Est-ce que vous arrivez à croire que non seulement vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes, mais en plus, votre frère faible... Votre sœur, faible, rasoir, casse-pied, égoïste et tout ce que vous voulez, elle est ce que Dieu dit qu'elle est, qu'il est. Qu'est-ce que Dieu dit que nous sommes? 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes son corps parce que son esprit vit en nous et nous progressons. Chacun à notre vitesse, mais nous progressons. Il y a des moments où on s'arrête, mais on se relève. On se relève comment? Parce qu'il y a un frère qui marche et qui s'arrête et puis qui nous aide à nous relever pour continuer à marcher. Amen. Ça, c'est le rôle du bon samaritain qui voit le blessé de la vie. Voilà, c'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Et il n'y a rien de plus beau. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il n'y a rien de plus saint sur la terre que le corps de Christ, l'Église. Aimez-la. Aimez-la. C'est vrai, elle est bourrée de défauts, mais aimez-la. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jésus, je te prie de... D'abord, je te remercie d'avoir tenu ma voix tout au long de cette prédication et je te prie que tu bénisses mes frères et sœurs et que tu les aides à comprendre qui tu es et qui ils sont en toi et qui tu es en eux et comment ils sont dans ton corps, quels membres ils sont, quelle est leur fonction, ce qu'ils ont à faire, comment ils doivent se manifester et en gros, comment ils doivent être dirigés, non par la peur, mais par l'amour, et qu'ils puissent aller de l'avant en te glorifiant toujours dans toutes les situations, que les choses soient venues pour un miracle, que les choses soient venues pour la mort, que les choses soient venues pour l'humilité, peu importe ce qui vient à nous, que chacun puisse dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, que ton nom soit béni, je veux te louer pour toutes choses, merci Seigneur, merci Jésus. Être dans la reconnaissance, posant notre pied par terre en nous levant en disant merci Seigneur, nous étant dans notre lit pour le soir pour aller dans le sommeil en disant merci Seigneur, être dans la reconnaissance, être dans la gratitude. Je te prie mon Dieu que mes frères et sœurs, par l'intelligence que tu leur communiques par le Saint-Esprit, puissent rentrer dans la gratitude, dans le nom de Jésus mon Dieu. Amen. Amen.